France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Pierre Arditi, Nils Arestrup, Robert Hossein, Michael Lonsdale, Antoine Vitez, Delphine Seyrig, Bernard Fresson, Raymond Devos, Stéphane Audran, Laurent Terzieff, Jean-Louis Trintignant. Tous, et la liste exhaustive serait interminable, ont eu en commun d'avoir été formés au métier de comédien par Tania Balachova. Tania était une femme unique qui aimait d'amour ses élèves. Elle les aimait comme s'ils étaient ses propres enfants, témoigne Michael Lonsdale. C'était une comédienne extraordinaire, psychologue et pédagogue. Cette rencontre a fait basculer ma vie. Tania Balachova m'a fait naître une deuxième fois. En 1965, Tania Balachova était l'invitée d'Harold Portnoy dans Impromptu de vacances. Elle y parlait de son enseignement, de ses élèves et de ses propres débuts difficiles dans le métier d'actrice. Elle y disait son amour du théâtre de Lorca, de celui de Tchekhov et de celui de Dubillard. Elle y disait les impressions lointaines de sa Russie natale, son amour pour la Bretagne, pour les forêts de bouleaux et son goût pour les réussites, le bridge, les cacahuètes et le chocolat. Mais surtout, elle parlait du théâtre, beaucoup aussi du théâtre et encore un peu également du théâtre.
France Culture présente Impromptu de vacances, une émission de Harold Portnoy. Ce soir, entretien avec Tania Balachova. Assistant, Jean-Marc Siafarikas.
Tania Balachova, qu'évoque pour vous le mot vacances?
Ça évoque promenade, marche. Marche dans des chemins à grosses ornières bien profondes, avec bien entendu des bouleaux. Je pense que ce sont les souvenirs d'enfance qui font que j'ai besoin de bouleaux dans mes promenades.
Pourquoi des bouleaux?
Giraudoux disait que c'était un arbre russe. Et je crois que c'est vrai.
Vous avez des souvenirs d'enfance qui se rapportent à la Russie?
J'en ai fort peu. Et ils me reviennent à l'improviste. Je ne sais jamais qu'ils vont me revenir. J'ai quitté la Russie très tôt.
Vous prenez beaucoup de vacances à l'heure actuelle?
Je prends pas mal de vacances. C'est là que je travaille. Et je crois que c'est en vacances que j'ai appris mon métier.
Que voulez-vous dire?
Eh bien, je veux dire que à Paris, comme je suis très paresseuse, je ne travaille pas. Je vais au cinéma et je joue aux cartes. Je regarde la télé. Je joue la comédie, je répète. Mais en vacances, je rêve mon métier. Et je crois que les choses les plus précieuses que j'ai apprises depuis toujours, même avant d'être comédienne, c'est en vacances, en me promenant.
Vous voulez dire que lorsque vous êtes en vacances, vous êtes disponible?
Oui, je me raconte des histoires. Et se raconter des histoires, c'est faire du théâtre. C'est jouer la comédie, c'est inventer des personnages, c'est re-rêver ceux qu'on a déjà joués, c'est rêver les grands rôles qu'on ne jouera jamais. Tout ça, c'est les vacances. Le rôle que j'ai le plus joué, c'est celui que je n'ai joué qu'une fois quand j'étais débutante, c'est Hermione. Ça a été le rêve de ma vie de le jouer, je ne l'ai jamais joué. Mais je l'ai joué au moins 2000 fois en vacances.
Et comment le jouez-vous en vacances alors? Vous le rêvez en marchant?
Oui, le fameux monologue « Où suis-je ?» que je fais. C'est tellement simple à jouer quand on est à la campagne, tellement difficile en scène.
Vous pensez que la situation de vacances est aussi une situation qui se prête à la représentation théâtrale?
Je crois que pour bien jouer, il faut être en état de rêve éveillé, de somnambulisme. Et c'est très difficile à atteindre en scène parce que on a les spectateurs qui vous aident, mais qui vous jugent. Et que On rêve les spectateurs en vacances, mais ces spectateurs-là ne vous jugent pas. Alors on est très bien.
Et où passez-vous vos vacances ?
C'est en Bretagne, mais la Bretagne où il y a de la campagne derrière, en Ille-et-Vilaine.
La mer avec la campagne derrière.
Oui, j'ai besoin de campagne.
Que signifie le mot « besoin » dans la phrase que vous venez de dire ?
C'est que je ne suis en état de parfaite euphorie que au milieu d'arbres et de prairies. Pas d'arbres trop serrés, pas la grande forêt terrible. Des bois avec des clairières et des chemins.
J'imaginais la mer, moi, pour vous.
La mer en arrière-fond. La mer pour apprendre à parler fort. Pour se faire l'addiction, la mer, c'est merveilleux.
Tout ce que vous nous dites, vous le rapportez au théâtre.
Toujours. Si je jouais au jeu de la vérité, vous sauriez que presque tout ce que je pense, à un moment donné, se rattache ou au théâtre ou à l'amour. Ou aux cartes, parce que c'est une autre passion.
Nous y reviendrons. Si vous voulez, on aborde la question théâtre.
C'était très pénible. J'étais la personne la moins douée en apparence.
Mais qu'est-ce qui vous a poussé vers le théâtre ?
Le besoin. Besoin comme on a soif ou faim. Tout le monde me disait, mais Tania, tu es timide, maladroite, tu es renfermée, qu'est-ce que tu vas faire au théâtre ?
Vous aviez quel âge ? À peu près, enfin.
Moi, j'ai décidé à 13 ans. J'ai affirmé que j'avais décidé à 15 ans. Mes parents voulaient que je fasse des études d'ingénieur parce que j'étais douée pour les mathématiques. Très douée. Et ça m'ennuyait à mourir. J'étais aussi douée pour le chant. J'avais, à 18 ans, une voix d'opéra formidable. Mais je ne suis pas musicienne, je n'aime pas la musique. Et je voulais être comédienne. Alors on me disait, mais tu ne seras jamais comédienne. Je disais, mais je dirais, Madame est servie. Ça m'était là.
Mais vraiment, c'est comme ça. Je veux dire qu'il y a tellement de journaux, vous comprenez, qui présentent la question des vocations d'une façon si ridicule.
Je pense que ce n'était pas une vocation de théâtre. C'était un besoin de revanche sur ma timidité.
Voilà, comme ça, présenté comme ça, je comprends.
C'est exactement ça. Je pense que les gens qui parlent de psychodrame ignorent peut-être cette chose, c'est que le théâtre dénoue. La preuve, c'est que tous les bègues entrent dans des cercles d'amateurs parce que c'est le seul endroit, c'est la scène, le seul endroit où ils ne bégayent pas. Et les gens deviennent audacieux quand ils sont terriblement timides. Devant le spectateur, pas aux répétitions.
C'est ça, au fond, c'est comme par exemple, les psychologues de métier sont des gens qui ont des difficultés personnel,
oui.
Très souvent.
Oui, sûrement.
C'est de la même façon. C'est comme ça un peu que vous êtes allé au théâtre.
C'est pour ça, d'ailleurs, que je comprends si bien les problèmes des débutants au théâtre. Comme j'étais très mauvaise, que je me faisais engueuler à longueur de journée, que plus je me faisais engueuler, plus j'étais mauvaise, je me rends compte que les élèves ont tour à tour besoin d'être humiliés, engueulés, et ensuite stimuler, ou l'inverse, quel que soit le trajet, pour se dénouer.
Ça se passait où ?
En Belgique.
En Belgique, à Bruxelles.
J'étais au conservatoire avec Rouleau, c'est avec Rouleau que j'ai appris ce que c'était que le théâtre.
Et comment ça s'est passé pour vous ?
Très mal au début, j'étais la plus mauvaise élève qu'on puisse imaginer. Je m'efforçais de minauder en jouant Marivaux. Je ne voulais jouer que les soubrettes parce que je trouvais ça de toutes les filles qui voulaient jouer les jeunes premières. Et je jouais les soubrettes d'une façon tarabiscotée et odieuse. Et un jour, j'ai travaillé Grouchenka des frères Karamazov. J'ai concouru et ma mère, qui était désespérée par ce que je faisais au théâtre jusque-là, a dit que j'avais joué Grouchenka comme Dostoïevski l'aurait rêvé. Et j'étais la plus heureuse des créatures. Ouais, mais après, j'ai de nouveau été très mauvaise.
Il y avait un compte entre votre famille et vous, quoi. Il fallait que ça...
C'est-à-dire que ma mère adorait le théâtre et aurait aimé que je sois une grande comédienne. Mais elle était persuadée que je serais une mauvaise comédienne. Heureusement, tout de même, Elle m'a vu jouer convenablement certains rôles.
Vous étiez dans la classe de Rouleau?
Oui.
Mais comment était-il avec vous? Est-ce qu'il vous avait compris?
C'est un metteur en scène d'acteurs extraordinaire.
C'est ça. Attendez, on va rester un peu sur cette question des débuts au théâtre. Vous avez dit que c'était très important. Et je crois qu'à l'heure actuelle, vous donnez des cours vous-même.
Je dis que c'est très important de mettre le pied à l'étrier. Mais c'est très mauvais d'être trop bien tout de suite.
Je vais m'adresser aux professeurs maintenant. Lorsque vous avez des élèves qui viennent, quels sont les problèmes qui se posent à vous? Les problèmes fondamentaux qui se posent à vous?
Problème fondamental, c'est la timidité. Or, je ne crois qu'aux acteurs qui sont timides. Or, ceux qui sont le plus timides sont les plus noués. Ils parlent trop bas. Ils ont des tics. Ils remuent les mains, ils remuent les pieds, ils froncent les sourcils. Je ne les entends pas.
Le théâtre comme thérapeutique.
Tous les problèmes sont là, les plus difficiles. Alors, la première chose à leur faire comprendre, c'est que ce n'est pas en se refermant sur eux-mêmes qu'ils expriment. Que leur âme immortelle s'exprimera beaucoup mieux s'ils s'ouvrent.
Et comment leur faire comprendre cela?
Mais leur faire comprendre, ils le comprennent.
Mais ça, c'est, si vous voulez, intellectuellement qu'ils le comprennent.
Oui, intellectuellement.
Ensuite.
Alors, je crois que c'est par ou par l'improvisation ou par la colère. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où ils sont tellement exaspérés contre eux-mêmes et contre moi que tout à coup, quelque chose jaillit. Et alors, ils sont très contents et ils se disent, tiens, mais voilà le théâtre qui arrive.
Vous avez dit que vous croyez aux êtres timides. C'est un rapprochement avec vous-même ou c'est
pas seulement avec moi-même, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas d'obstacles à surmonter dans n'importe quel art, qu'ils soient sculpteurs de pierre, qu'ils soient peintres, qu'ils soient acteurs, qu'ils soient écrivains, la facilité est un obstacle terrible. Parce qu'il faut avoir des problèmes et les vaincre. Pour devenir quelqu'un, il faut avoir quelque chose à exprimer.
Je pense que ça dépasse même le contexte de l'art. C'est vrai pour tout le monde. Les gens pour qui les choses sont faciles sont en général des gens qui vivent
dans
une...
Mais les plus doués, moi j'ai eu des élèves merveilleusement doués qui lâchaient immédiatement. Ils étaient brillants, ils étaient séduisants, ils avaient une belle voix, ils jouaient n'importe quoi.
Est-ce que vous croyez à ça aussi, la belle voix?
Mais bien sûr que c'est important, la belle voix.
En
général, c'est pas la première chose.
Oui, mais celui qui a une belle voix, puisque la voix est belle, c'est qu'il a confiance en lui, non? C'est une idée.
Mais la voix doit devenir belle.
C'est pas la voix qui est belle, c'est la voix qui devient belle.
Mais je ne crois pas que ce soit un hasard que les gens les plus doués au départ s'en aillent. Mais c'est qu'ils se rendent compte que le métier est difficile. Et comme tout est facile pour ces gens-là, pourquoi s'obstineraient-ils? Si ceux-là, qui sont si doués, qui ont toutes les facilités, s'accrochaient au métier, ils seraient encore plus merveilleux que les autres. Seulement, ils lâchent. Tandis que ceux qui ne peuvent pas se passer du théâtre...
Pour vous, c'est
les
ça.
Les malhabiles, les gens qui ne savent pas s'exprimer dans la vie, qui ne savent pas trouver... une façon facile d'entrer en communication avec les autres. Ils n'ont que le théâtre, ou la poésie, ou la peinture, ou n'importe quel art.
Mais vous,
alors cela s'accroche.
Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous sous-entendez que tous ces êtres-là ont envie de communiquer.
Je crois que tout le monde a envie de communiquer, finalement.
Oui.
Oui. Les gens renfermés communiquent par autre chose, ou alors ils se sont des morts-vivants. Il y a de grands artistes qui ne communiquent que par leur art. C'est évidemment une façon merveilleuse de communiquer. Mais évidemment, communiquer en sachant bien danser, en sachant bien parler aux partenaires, c'est beaucoup plus agréable et plus merveilleux.
Je trouve ça
merveilleux. Ce n'est pas donné à tout le monde.
Moi, ce que je trouve merveilleux, c'est vous entendre dire « tout le monde a envie de communiquer », si c'était vrai.
Je suis sûre que les gens qui sont soit de grands criminels, soit des sadiques...
Mais c'est pas n'importe qui, vous ne... Attention.
Sont des gens qui n'ont pas su communiquer.
Oui, d'accord,
qui ne savent communiquer que par la cruauté, par la méchanceté.
Vous ne citez pas n'importe qui. Vous avez dit des grands sadiques, des grands criminels. Ce sont des gens qui ne sont pas n'importe qui.
Ce oui, mais n'ont pas trouvé d'autres moyens de communication.
C'est la tragédie.
C'est la tragédie. Leur tragédie.
Leur tragédie.
Oui. Évidemment, être en même temps sade et un grand écrivain... C'est une façon de s'exprimer par les deux voix. C'est pas donné à tout le monde.
Donc, si je comprends bien, lorsque vous avez, pour en revenir alors à vos élèves, vous traquez un peu la timidité.
De deux manières. Par la confiance, par les stimulants à l'imagination, et ensuite, et ce n'est pas voulu chez moi, par la colère. Il arrive un moment où l'élève me met en colère, dans une colère rouge, noire et très violente, qui fait que l'élève se met à pleurer. J'ai honte, mais je continue. Et après avoir pleuré, l'élève tout à coup s'abandonne et se livre. Et nous nous réconcilions. Et tout ça n'est pas concerté. Tout ça vient parce que je sens que l'élève est sur le bord d'apparaître. Et ça m'exaspère. Mais la colère, pour moi, est quelque chose de très bénéfique. Pas la violence, mais la colère.
Vous avez cité plusieurs fois le mot, oui, colère. Mais sur scène, je vous ai vu en colère, moi.
Oui. Ce qu'il y a de merveilleux dans Lorca, je n'ai peut-être jamais été aussi profondément possédée par un rôle que par la dernière scène de la mère de Noces de sang. Quand elle vient de perdre son dernier enfant, après avoir perdu son mari, et qu'elle entre en scène, n'ayant plus rien, elle entre en colère, dans une de ces colères comme la mère peut en avoir. Je crois que personne n'a aussi bien senti la violence et la beauté de la colère que Lorca.
Je pensais le feu. Le feu des êtres, le feu intérieur des êtres.
Ça. Mais le feu, on le connaît chez d'autres écrivains. Mais le feu de la colère généreuse, si, probablement chez les grands Grecs. Oui, aussi chez Racine.
Mais que signifie la colère, alors, dans le cas que vous venez de présenter? Cette femme qui a tout perdu et qui entre en scène en colère. Que signifie cette colère?
Je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. J'ai l'impression que c'est en même temps une façon de pouvoir continuer de vivre. Parce que qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus qu'à mourir. Et elle n'aime pas la vengeance. Elle a lutté contre l'esprit de vengeance pendant toute la pièce.
Une espèce de cri, au fond.
Oui, je pense que le cri de la colère, c'est aussi bon pour l'organisme que le cri du bébé quand il naît. Aussi indispensable devant le trop grand malheur. Avec un tout petit couteau, entre 2 et 3 heures, un certain jour, les deux âmes de l'amour s'entretueraient. Avec un couteau, un petit couteau qui tient à peine dans la main, mais il pénètre finement dans les chairs surprises et s'arrête à l'endroit où tremble enchevêtrée la sombre racine de nos cris. Un petit couteau qui tient à peine dans la main, poisson sans écailles, sans fleuve. Le jour dit,
entre 2 et 3 heures, de par ce tout petit couteau. Deux hommes sont restés durcis à jamais, les lèvres toutes jaunes. Elle est dramatique ou quand elle est chanson. Et Lorca est quelqu'un que je n'ai jamais su lire. Quand je lis une pièce de Lorca, je ne la comprends pas, elle m'ennuie, ça me fait penser au folklore et à la poésie folklorique
que vous n'aimez pas,
que je n'aime pas, et je refuse. Mais quand je travaille Lorca, je m'aperçois tout à coup que c'est pas du tout de la poésie rustique, mais de la grande tragédie, avec le thème essentiel de la tragédie, c'est-à-dire
l'amour.
L'amour, la mort, la colère, la tendresse, la peur. Et tout y est, et tout ça sous-jacent. C'est-à-dire que j'ai tout à coup découvert qu'un mot qu'on dit au premier tableau du premier acte, passant par en dessous, ressurgit à la fin du deuxième acte. Et que c'est une espèce de parcours intérieur aussi profond, aussi subtil que chez Dostoïevski. Et en même temps, cette langue qui reste admirable malgré la traduction.
Oui, c'est ça, oui. Il faut dire qu'il est assez bien traduit.
Merveilleusement,
enfin, c'est ça.
Le sens de la magie qui est tellement profond chez lui et qui n'est pas externe.
Qu'entendez-vous par magie ?
Le mystère, les incantations, les cantilènes, qui sont des émanations des êtres primitifs qu'il y a chez les Espagnols, qu'il y a chez les Russes, qui sont plus cachés chez les Français, qui existent toujours. Le sens de la nuit, quoi. Il y a la vérité du jour et il y a le mystère de la nuit chez Lorca, c'est formidable.
Vous avez joué Bernarda. Vous pouvez en quelques mots nous situer le drame. Cette femme avec ses filles.
Bernarda est la mère de beaucoup de filles qu'elle a mises en prison par peur du mal et par peur du déshonneur et par peur de la fortune partagée. Et finalement, par son espèce de sens de l'autorité, de la dictature maternelle, en quelque sorte, elle détruit toutes ses filles. Et la préférée se suicide.
Est-ce que vous avez aimé, vous, jouer ce rôle ?
Je l'ai aimé quand je me suis mise à aimer Bernarda, ce qui est difficile, parce que c'est une espèce de monstre. Mais c'est un monstre qui a été frustré, sûrement. Elle se débat contre des espèces de lois qu'elle s'est prescrites. Elle sacrifie tout à ses lois d'honneur et d'argent. Et elle brime sa tendresse. Or, si elle n'avait pas cette tendresse, si elle n'avait pas ce chagrin, elle serait insupportable pour moi. Et moi, j'ai besoin d'aimer les gens que je joue. Que j'aime leur vice ou que j'aime leur vertu, j'ai besoin de les aimer. Or, je n'aime ni l'argent, ni le sentiment de l'honneur en tant que
représentation
que point
sociale.
D'honneur vis-à-vis du voisin. Alors j'avais beaucoup de mal à aimer Bernarda. Mais quand je l'ai remise dans son malheur d'enfance et dans son besoin de tendresse, peut-être que je l'ai mieux aimée. Thank you.
Tchekhov. J'allais dire beaucoup, aussi.
Beaucoup, oui.
Et qu'est-ce que vous aimez alors chez Tchekhov?
Le théâtre. Beaucoup plus que les nouvelles. La Cerisée, Ivanov et l'oncle Vania et les trois sœurs. Personne n'a approché avec autant de tendresse les drames des velléités tendres. Or, en soi, ce n'est pas dramatique. On ne peut émouvoir et faire participer au vrai désespoir de ces personnages que quand on est Tchekhov. Personne d'autre n'a su le faire. À vrai dire, ils devraient tous être des personnages de second plan puisqu'ils ratent leur drame. Et Tchekhov a réussi à faire des drames avec des drames ratés. Et personne n'a su le faire.
Et pourquoi cela vous a attiré? Pourquoi cela vous a-t-il intéressé, vous? A priori, je vous voyais plus dans la violence, enfin, dans une expression de feu intérieur. Et Tchekhov, c'est plutôt la demi-teinte.
Mais je crois que les psychanalystes sont tous d'accord, d'ailleurs, que les pires drames, ce sont les drames des gens qui n'aboutissent pas au drame. Il se réfugie finalement dans la dépression ou dans le suicide. Parce que dans la vie, ils n'ont pas leur drame. Le drame des gens qui finissent par le meurtre et par les scènes violentes, etc.
C'est un drame qui est sain.
C'est un drame qui est sain.
Je crois qu'on vous a abandonné à vos débuts. Mmh. Vous étiez en train de lutter avec vos difficultés d'ordre psychologique.
Oui. Et technique aussi, parce que je faisais, je ne sais pas, quand je pense que je demande à mes élèves 10 minutes de technique par jour, et une fois de temps en temps 2 heures, les jours où on est en forme, moi je faisais, je ne sais pas, au moins 1 heure de technique par jour à mes débuts. J'avais la voix qui chevrotait.
Qu'appelez-vous technique ?
Apprendre à se faire entendre et ne pas être désagréable à entendre. C'est un problème qui existe peu à la télévision et à la radio, mais qui existe beaucoup au théâtre, puisqu'il faut dire « mon chéri, je t'aime » et se faire entendre dans une grande salle. En principe, il faut tricher.
Bien sûr.
Donc il faut savoir articuler, il faut savoir timbrer, tout en détimbrant, enfin tout ça est très compliqué. Et je me suis compliqué la vie à mes débuts d'une façon presque maladive. Ce qui fait qu'au bout de 6 mois de travail, toutes les phrases que je prononçais étaient du charabia. Tant au point de vue intonation, parce que je cherchais des intonations très subtiles, qu'au point de vue diction. Et que je rentrais la voix, que je contournais soigneusement tous les consonnes, je parlais comme ça, et avec la voix rentrée. Et des choses très simples que les professeurs ne m'ont jamais dites, je me suis dit que j'allais les apprendre à mes élèves, c'est-à-dire d'ouvrir les mâchoires pour ne pas barrer le son, et de ne pas envoyer la voix vers l'intérieur, mais simplement penser qu'on parle vers l'extérieur pour se faire entendre. C'est beaucoup plus psychique que technique, d'ailleurs, la technique.
Moi, j'ai l'impression.
Eh oui.
Parce qu'à vous entendre, évidemment, dire cela, en fait, si la voix ne passe pas, c'est parce que
Parce qu'il y a des empêchements psychiques, oui. Mais c'est tout de même de la technique, parce qu'il faut tout de même exercer les lèvres pour qu'elles soient musclées et que les mâchoires s'ouvrent.
Mais je dirais même la hauteur, le timbre de la voix change avec l'état d'esprit de l'individu, non?
Oui, mais tous les timbres sont utilisables, en somme, pour un acteur, puisque un éventail de rôles qu'il est appelé à jouer. Même la voix perchée, insupportable, peut être utile pour certaines compositions. Alors, généralement, j'apprends la technique par des jeux.
Des jeux ?
J'enseigne la technique, je veux dire, par des jeux. Je joue à faire imaginer aux élèves qu'ils doivent se faire entendre de l'autre côté de la rivière. Je leur demande d'oublier le sens des mots et de s'amuser à faire des sons riches, décupler certaines consonnes d'une façon royale. Tout ça, ce sont des jeux, mais le jour où ils ont à jouer Ruy Blas, ça peut leur servir.
Comment se présente la carrière à l'heure actuelle ?
Les possibilités sont sûrement beaucoup plus grandes, mais il y a beaucoup plus de postulants, ce qui fait que les débuts sont encore plus difficiles.
Il y a nettement plus de postulants.
Oh, oui. Ce n'est plus un métier maudit. Toutes sortes de jeunes filles bien peuvent aspirer à devenir
Qu'est-ce que ça veut dire, une jeune fille bien ?
Ce que j'appelle une jeune fille bien, c'est un peu péjoratif au départ, mais je ne trouve pas du tout qu'une jeune fille bien soit forcément une jeune fille mal. C'est une jeune fille de bonne famille, ce qu'on appelle une jeune fille de bonne famille, qui n'aurait pu faire du théâtre qu'en rompant tous les ponts autrefois. Maintenant, elle peut.
Oui, ça ne veut pas dire parce qu'elle est de bonne famille que ça ne fera pas une belle carrière, ni qu'elle fera une bonne carrière.
C'est-à-dire que, évidemment, il y avait beaucoup moins de jeunes acteurs il y a 50 ans. Ça prolifère.
C'est peut-être
c'est pour ça que c'est très difficile. Ouais.
Vous n'avez pas l'impression que l'influence de la télévision joue ? Je ne sais pas, remarquez-moi.
Oui, l'influence de la télévision fait penser à des jeunes gens qui pourraient faire ce métier-là alors qu'ils n'y auraient jamais pensé. Au fond de la Bretagne, il y a des gens qui se disent qu'ils peuvent être acteurs, alors qu'autrefois, ils n'y auraient simplement pas pensé.
Vous pensez au fond qu'il y a trop de jeunes qui se lancent ?
Oui, mais l'épuration se fait toute seule, parce qu'ils se découragent vite. Seuls restent ceux qui ne peuvent pas faire autrement, à vrai dire. Ou ceux qui ont des débuts foudroyants et qui restent en rade après.
Vous avez connu Artaud, je crois.
Oui. Je crois que ça a été ma deuxième révélation pour le théâtre. Il m'a appris des choses que je ne savais pas.
À quel moment l'avez-vous connu ?
Je dois l'avoir connu aux environs des années 30, entre 28 et 30. J'ai joué avec lui peut-être vers 31, je ne sais plus.
Il m'a appris des choses que je ne connaissais pas. Il vous a révélé certaines choses. Est-ce qu'on peut vous demander quel est l'ordre de ces révélations, enfin, comment elles se situent ? Quelle est
Je l'ai déjà dit une fois à une interview. Je crois qu'il m'a appris le cri. Quelque chose de beaucoup plus proche de l'état de des noirs, par exemple, des noirs en transe. Je faisais du théâtre plus assez violent d'ailleurs, mais plus raisonnable dans la violence jusqu'au jour où je l'ai rencontré. La dissonance du cri, si je peux dire. Ce que la musique atonale a apporté à la musique. Je ne connaissais pas la musique atonale.
Le cri est un peu comme expression plus que corporelle. Enfin,
beaucoup plus que corporelle. C'est-à-dire que le corps suit évidemment dans le cri. Je ne sais pas. J'étais très déroutée, très impressionnée par Artaud. J'étais très jeune. Et je crois que je l'ai exaspéré. Il m'aimait beaucoup, mais
comment vous apparaissait-il ?
Mais il m'a apparu comme le génie doit apparaître aux gens qui ne l'ont jamais rencontré. Il m'a désorienté, il m'a horripilé, il m'a dérouté. Il m'a fait perdre pied pendant toutes les répétitions. Je n'ai pu me servir d'aucune de mes acquisitions, d'aucun de mes trucs d'actrice. Or, on n'y échappe pas aux trucs d'actrice. Il m'a enlevé. Je flottais dans l'inconnu quand je travaillais avec lui. Aucune acquisition préalable ne pouvait me servir dans le travail que j'avais à faire avec lui. J'étais complètement désarmée et désarçonnée.
Au fond, pour beaucoup de gens, vous voyez, ce genre d'expérience peut paraître comme aboutissant à des paradoxes, enfin.
Non, il est certain qu'il faut un jour ou l'autre apprendre que la passion, la psychologie et la technique ne suffisent pas. Qu'il y a des choses souterraines qui doivent servir aux acteurs. Et ces choses souterraines, il me les a apprises. Enfin, il ne me les a pas apprises, on ne peut pas les apprendre. Mais il m'a fait comprendre que il fallait laisser venir.
Mais faire comprendre.
Non, pas faire comprendre, faire surgir. Je dis encore, pour moi, le metteur en scène, c'est une sorte de sourcier qui fait affleurer des choses qu'on a en soi. C'est pas un professeur.
Quelle belle définition du metteur en scène vous donnez.
Ce n'est pas un dictateur. Les metteurs en scène dictateurs sont pour moi les pires ennemis de l'acteur et du théâtre en général. Il n'y a pour moi que les sourciers. Rouleau en est un.
Un sourcier.
Oui. Rouleau en forme. Rouleau peut se tromper pendant 10 répétitions et puis à la 11e, il fait surgir en vous des choses extraordinaires. La même chose pour Artaud.
Malheureusement, j'ai l'impression, remarquez, moi je vous parle en dehors, c'est pas des, je suis en dehors de cette question, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui sont administrativement metteurs en scène.
Ils sont ou administrateurs ou dictateurs. Le dictateur est pire que l'administrateur.
Oui, parce qu'il n'a pas réglé ses problèmes.
L'administrateur laisse faire tout de même l'acteur. S'il a confiance en lui, s'il l'a distribué, c'est qu'il a confiance en lui. Il fait de la mise en place, il veut certaines choses, mais enfin, si on ne les veut pas, on finit par s'entendre. En plus, il y a les metteurs en scène dictateurs qui sont pour moi la pire plaie du théâtre. Et ceux-là sont spécifiquement attachés au théâtre. Parce que, heureusement pour la télévision et pour la radio, les metteurs en onde et les metteurs en scène sont obligés de faire appel à l'acteur, parce qu'ils n'ont pas le temps d'obliger l'acteur à faire des choses qu'ils veulent. Alors, ils se servent de l'acteur en l'aimant, tandis que les metteurs en scène dictateurs n'aiment pas l'acteur, ils aiment leur boulot et ils aiment ce qu'ils voient dans l'œuvre. Et ils tuent l'acteur et par conséquent, ils n'arrivent pas à lui faire rendre ce qu'il rendrait normalement, dans leur propre sens.
Mais vous savez que très très souvent, on entend des metteurs en scène dire que l'acteur n'est qu'un pion, qu'il faut modeler complètement, qu'il faut briser,
mais
casser.
Mais ils ne peuvent pas obtenir de l'acteur ce qu'ils veulent s'ils le brisent. Ils ont besoin d'acteurs entiers et en forme pour obtenir ce qu'ils veulent. Et finalement, ils obtiennent ce qu'ils veulent s'ils ne sont pas dictateurs et ils n'obtiennent rien que des mannequins et de mauvais acteurs quand ils le brisent. C'est normal. Un acteur a besoin de rêver, un acteur a besoin de se tromper, et finalement, il arrive, par des suggestions, à faire ce que le metteur en scène souhaite, à condition que le metteur en scène ne le lui impose pas.
J'imagine mal un metteur en scène essayant de vous plier à ce qu'il rêvait, lui, à propos d'un rôle. J'ai l'impression, peut-être à tort, je n'en sais rien, du reste, que ou bien ça va marcher, ou bien ça va pas marcher, mais que vous allez aller dans le sens d'une certaine nature.
Le vrai sens s'obtiendra par la bagarre entre le metteur en scène et moi. Je ne peux pas non plus travailler avec un metteur en scène mou.
Bien sûr.
J'ai besoin d'un metteur en scène qui veuille, que moi je veuille autre chose, et finalement de cette espèce de combat, de cette partie de tennis, naîtra la vraie partie.
Ne pensez-vous pas que, pour certains comédiens, la personnalité du metteur en scène est très importante? Il y a là, si vous voulez, comme un cas personnel.
Vous parlez des acteurs qui manquent de personnalité.
Ou qui peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes, c'est à travers la personnalité d'un autre.
Mais c'est pour ça que je dis que le bon metteur en scène est sourcier. C'est que même chez des gens faibles et qui ne savent pas se défendre, il va aller chercher en eux ce qu'ils ont de bon et n'imposeront pas des choses externes. Évidemment, des acteurs tout à fait médiocres et qui ont beaucoup de métiers, on peut s'en servir sans passer par le reste. Ça va plus vite. Certains que si on doit répéter une pièce en 3 semaines, on ne peut pas faire appel au don de sourcier du metteur en scène. Il y faut plus de temps.
Autrement dit, c'est une question de communication, là aussi.
Exactement. Parler du billard, parce que c'est comme Artaud. C'est tout autre chose qu'Artaud. Mais c'est inexplicable. On ne sait pas ce qu'il vous apporte.
Vous avez joué dans les pièces du billard?
Oui, j'ai joué Naïve Girondelle. Trop vite, à mon avis, très désagréablement et très mal au début, parce qu'il m'aurait fallu beaucoup plus de temps. Et je n'étais pas mécontente à la fin.
Eh bien, parlons un petit peu de Naïve Girondelle. De quoi s'agit-il ?
De rien. Je ne sais pas, je peux vous approcher Naïve Girondelle en vous disant c'est comme si c'était Tchekhov dans la toute petite bourgeoisie française traversée par Maxénette. C'est-à-dire que tout ce qui est ratage chez Tchekhov, ratage uniquement psychique, chez du billard se complique d'un ratage matériel. Les objets se cassent, les gens tombent, les gens se comprennent aussi peu que dans Tchekhov et ont autant besoin les uns des autres que dans Tchekhov, sont aussi tendres que les personnages de Tchekhov, mais beaucoup plus fermés en apparence et se refusant les uns les autres. Alors que dans Tchekhov, ils s'appellent les uns les autres. Les personnages du billard s'appellent, au fond. Ils ont besoin, mais ils ne le disent jamais. Ils se disent des choses très désagréables, très pénibles. Et ils sont aussi désespérants, mais aussi touchants que ceux de Tchekhov.
Là aussi, c'est le problème de la communication. Ou de l'incommunication.
Oui, exactement. Oui. C'est toujours le même problème. Et le même tissage que chez Lorca et chez Tchekhov, c'est-à-dire que rien de ce qui est important ne se dit comme on le dit dans le mélodrame. Ça se dit par en dessous, ça surgit tout à coup, quand on n'y pense plus. Il faut le deviner. Il faut toujours tout deviner.
C'est ce qui vous plaît. J'ai du billard, c'est ce qui...
C'est ce qui me plaît, oui. Puis un don de la langue... Un don de ce qu'on appelle le parler négligé en apparence, qui est d'une science de la langue et de la grammaire incroyable, comme chez Queneau. Un sens du langage avec des mots de remplissage et des hésitations et des redites et des redéparts qui sont finalement comme une espèce de symphonie de la langue extraordinaire. Ça a l'air épouvantablement écrit, bâclé, si on y prête attention. Et puis quand on le lit et qu'on l'apprend, on s'aperçoit que la moindre syllabe, le moindre « mais, je, que », etc., sont là parce qu'il les faut, et que si on les enlève, la phrase n'a plus de sens.
Les héros de Dubière sont malheureux.
Oui, ils ont des bonheurs fugitifs. Ceci dit, moi... C'est ma façon de voir du billard. Il n'est peut-être probablement pas du tout d'accord.
Tout à l'heure, pendant qu'on changeait de bande, notre preneur de son me signalait que nous étions loin des vacances, de l'idée de vacances. Je voudrais qu'on y revienne à cette idée de vacances. Laissons de côté le théâtre. Tout au début de cette interview, je crois, Vous avez parlé des cartes. Vous avez dit les cartes. Moi, j'aime les cartes. Est-ce que ça...
Les cartes, les romans policiers, les réussites, enfin, le bridge, les cigarettes et les cacahuètes, tout ça occupe mes journées quand je suis à Paris. Les mauvais films, les beaux films, la télévision, tout ça me prend toutes mes journées. Je suis paresseuse, c'est-à-dire que je ne pense à rien qu'à ça. Et ça me sert de paravent contre les angoisses, contre le sentiment que la vie est tout de même quelque chose de très vertigineusement compliqué. Je suis rassurée au milieu de mes cartes et de mes romans policiers, et tout à coup, quand j'arrive en vacances, je me nettoie de tout ça, et pendant un mois, je me livre à l'imagination, à la rêverie, je me pose des problèmes, je lis de beaux livres, je me prive de cartes, je me promène, et depuis ma toute petite enfance, je suis très sensible à la magie de la nature, c'est-à-dire que la nature agit sur moi comme une espèce de filtre. Je retombe toujours sur mon métier parce que c'est là que je rêve aussi mes rôles, c'est là que je rêve mes romans d'amour, c'est là que je rêve la vie des autres, c'est là que je prends conscience, par exemple, de ce que ça a d'angoissant d'enseigner cet art à des jeunes gens, alors que pendant l'année, c'est de la routine pour moi. C'est là que je me pose mes problèmes de professeur, et c'est là aussi que je retrouve une espèce de mépris et de tendresse pour moi-même. Alors que pendant...
Pourquoi dites-vous mépris ?
Je dis mépris parce que je ne remplis pas bien ma vie de personne vouée à l'art.
Vous connaissez quelqu'un qui
je perds
bien.
Beaucoup trop de temps, je ne fais pas toutes les choses que je devrais faire, je gaspille mon temps à des choses absolument sottes, alors que pendant les vacances, je ne gaspille pas.
C'est
je
sérieux.
Trouve ça très joli. C'est
un
sérieux.
Temps sérieux.
C'est
non.
Pas sérieux, c'est merveilleux comme l'adolescence. Je retrouve mon adolescence, je crois, et mon enfance quand je vais en vacances. Et je m'aime bien. Mais j'ai aussi très peur.
Pourquoi ?
Parce que la vie, c'est très angoissant.
Alors, c'est tendu...
Je n'ai pas de dépression nerveuse, je n'ai pas d'angoisse dans la vie parce que je me dresse justement tous ces petits paravents. Je suis quelqu'un d'équilibré, je passe pour folle parce que je suis très normale et très naturelle et très bien portante dans la vie. Et tout à coup, en vacances, je me trouve avec tout ce qu'il y a d'angoissant dans la vie, dans la mort, dans l'amour, dans la misère, dans les petits chinois et dans les responsabilités des hommes blancs et tout ça que j'oublie, malgré la télévision, dès que la saison commence. En octobre, je deviens quelqu'un de content, de bien portant et de pas intéressant. Sauf quand, par hasard, je joue un rôle où je suis bien et où certains moments de professeur où je suis bien. Mais je n'ai plus de problème, tandis qu'en vacances, j'ai de grands bonheurs et de grandes angoisses et de grands problèmes comme on a quand on est adolescent.
Vous semblez
et
dire...
tout ça, c'est la nature qui m'apporte ça. Et le manque de cartes, l'espèce d'hygiène que je m'impose pendant un mois et demi.
Alors que représentent les cartes pour vous ?
Je vous dis, c'est ce que représente la frivolité pour certaines personnes.
Ou les tranquillisants ?
C'est un tranquillisant. Je n'emploie pas de drogue et je ne bois pas. Mais les cartes, c'est une espèce de drogue calmante. Ça ne me détruit pas autant que me détruiraient les vraies drogues, quoi. Tout de même moins grave. C'est un narcotique passionnant.
C'est le jeu, mais ce n'est pas le jeu.
Ce n'est pas le jeu de hasard, risque. Non, oui, pas du ça. Tout. Je n'aime pas les jeux de hasard. C'est voir le jeu de 13 cartes qu'on me donne quand on joue au bridge et la petite série d'enchères et d'impasses. C'est chaque fois un tout petit problème. Je ne me creuse pas du tout. Je ne joue pas du tout en grande joueuse. Je fais des réussites avec le même plaisir.
Vous aimez faire des réussites ?
Oui, j'adore ça. J'adore manger des cacahuètes, mais ça m'enroue. J'adore manger du chocolat, mais c'est du même ordre. Ce sont toutes sortes de paravents qu'on se met pour se rassurer. Il y a des gens qui ont la foi, je ne l'ai pas.
Les gens ne sont pas heureux en général parce qu'ils ne se laissent pas avoir des frivolités. Autrefois, on était tranquillement frivole. Maintenant, on a mauvaise conscience quand on est frivole. Alors moi, je n'ai mauvaise conscience que pendant un mois de l'année. C'est bien.
Terminé, Tania Balacheva va nous dire un extrait de « La vie que je t'ai donnée » de Pirandello. Il s'agit d'une réflexion sur la vie et la mort.
Vous croyez que je viens de perdre mon fils, n'est-ce pas? Ce n'est pas cette nuit qu'il est mort. J'ai pleuré en secret toutes mes larmes quand je l'ai vu arriver. Il n'en reste plus à verser. Quand j'ai vu revenir cet étranger qui n'avait plus rien de mon fils, je l'épiais. Je ne souhaitais rien qu'un regard, un sourire à fleur de lèvres, que sais-je. Moi encore, une lueur sur son front, son beau front d'adolescent, avec ses cheveux frisés, dorés par le soleil, qui fit revivre une minute mon enfant d'autrefois dans celui qui m'était revenu. Mais non, non. D'autres yeux, glacés, un front toujours sombre, creusé aux tempes, et chauve, presque chauve, tel qu'il est là. Vous admettrez peut-être bien que je connaissais mon fils, une mère. Regarde son enfant, elle sait comment il est. Mon Dieu, c'est elle qui l'a mis au monde. Eh bien, la vie peut agir envers une mère avec cette cruauté, lui arracher son enfant et le lui changer. Il était devenu un autre et je n'en savais rien. Il était mort et je continuais à le faire vivre en moi. Oui, il vivait sa vie et ce qu'il en donnait aux autres. Moi, il me donnait bien peu depuis longtemps, presque plus rien. Il était tout entier là-bas, toujours. Comprenez-vous maintenant ce que j'ai souffert? Mon fils, celui qui vit en moi, était resté là-bas près de cette femme. Et je n'ai revu que celui-ci. Je ne sais même pas comment il me voyait de son regard changé. Cet étranger qui ne pouvait plus rien me donner, qui, si par hasard, il m'effleurait de sa main, ne sentait plus comme avant. Que puis-je savoir de sa vie telle qu'elle était devenue pour lui, de sa façon de voir les choses, de sa façon de les sentir quand il les touchait? Ce que nous avons perdu aujourd'hui, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas. Que nous ne pouvons pas connaître la vie telle qu'il la sentait, cela oui. Mais alors comprenons bien que la véritable raison qui nous fait pleurer une mort n'est pas celle qu'on croit. Nous pleurons sur nous. Nous pleurons parce que celui qui est mort ne peut plus, lui, nous donner la moindre existence. Ses yeux éteints ne nous voient plus, ses mains durcies et glacées ne peuvent plus nous toucher. Pourquoi voudriez-vous donc que je pleure aujourd'hui? Sur moi? Quand il était loin, je me disais, s'il pense à moi en ce moment, je suis vivante pour lui. Cela me soutenait, me réconfortait dans ma solitude. Mais à présent, que dois-je dire? Je dois dire que je ne suis plus moi. Vivante pour lui, que je ne vis plus moi, qui ne peut plus penser à moi, me donner la vie dans son esprit. Et vous venez au contraire me dire, vous, que c'est lui qui ne vit plus pour moi. Mais s'il vit pour moi, il vit de toute la vie que je lui ai toujours donnée, ma vie, la mienne. Et non pas la sienne que je ne connais pas. Sa vie, la vivait lui-même, loin de moi, je n'en savais plus rien. pendant 7 ans. Je lui ai donné la vie sans qu'il y eût la moindre part. Ne puis-je continuer à le faire vivre de la même façon? De lui, qu'est-ce qui est mort qui ne fût déjà mort pour moi? J'ai eu le temps de m'apercevoir que la vie ne dépend pas de la présence ou de l'absence d'un corps sous nos yeux. Le corps peut être là devant nous, être mort, vidé de la vie que nous lui donnions. Ses yeux, qui parfois s'élargissent, illuminés brusquement par un jet de lumière qui les emplissait de rire, de bonheur et de soleil, il les avait perdus dans la vie qu'il vivait, mais en moi, non, ses yeux n'ont pas changé. Je l'appelle, il se retourne, bien vivant, et ses yeux sont toujours pleins de rire, de bonheur et de soleil. La vérité, c'est que je ne dois plus lui permettre à présent de s'éloigner de moi en qui il a toute sa vie. Il faut qu'aucune existence ne s'interpose entre lui et moi, voilà tout. Toute ma vie sera à lui. Seront lui mes yeux qui le voient, mes lèvres qui lui parlent. Et je peux même le faire vivre là où il préfère, peu importe. Et moi, je continuerai ici à attendre son retour.
Impromptu de vacances était une émission de Harold Portnoy. Ce soir, entretien avec Tania Balachova. Collaboration technique Bernard Picard, Daniel Desbarba, assistant Jean-Marc Siafarikas.
Cette émission a été diffusée la première fois le 21 septembre 1965 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.